Merci à nouveau. Donc, bonsoir à tous. Ce que je disais à l'instant, c'était pour chaque séance, vous aurez à peu près généralement un ou deux documents relativement brefs, disons deux pages. Et ce que je vous recommande, c'est de les éditer en préalable à la séance pour les avoir en papier au moment entre 20h et 22h. Mais si ce n'est pas le cas, évidemment, on peut les partager à l'écran et ça ne pose pas de problème. Donc, pour aujourd'hui, vous aviez deux documents, donc deux recto verso. Un premier document qui est une présentation générale, un projet, hein, je dirais un projet de plan de cours, argumentaire et projet, plan général du cours. C'est un projet simplement parce que ça sera quelque chose où je vais m'adapter en fonction des choses, la manière dont les choses vont évoluer, bien entendu. Mais c'est quand même un projet. Donc, je vais, si vous me permettez, juste le partager à l'écran pour que vous l'ayez, enfin, qu'on sache tous de quoi on parle. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de... Je vous partage mon écran. Est-ce que vous le voyez? Donc, là encore, on me dit oui ou on me dit non. Voilà, on me dit oui. Donc, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, un argumentaire qu'on peut être lire ensemble. C'est un premier cours, je lis donc, hein, un premier cours du programme du CIF, ça, je pense que vous le savez, qui tient lieu d'introduction à la réflexion sur la foi chrétienne et cherche à en présenter les fondamentaux, la spécificité, la cohérence. Donc, une petite série de questions qui vont être nos questions pendant tout le trimestre. À un Dieu qui se révèle lui-même, l'être humain peut répondre en devenant participant du peuple des croyants. Voilà une affirmation que, bien sûr, il faudra détailler, expliquer, critiquer, commenter en tous les cas. Ça débouche sur des questions. Je poursuis ma lecture. Que signifie alors croire? De quel Dieu parle la foi chrétienne? Selon quelle médiation, commentaire évidemment humaine, la rencontre entre Dieu et l'homme peut-elle s'opérer? Selon quelle médiation? Et je renvoie ici à Evangelii Gaudium, dont je parlerai dans quelques moments, dans la dernière, enfin, dans une partie de la soirée. Donc, vous voyez que les mots sont importants autour de qu'est-ce que croire, de quel Dieu on parle, quelles sont les médiations de la foi, les médiations, c'est-à-dire les intermédiaires, on pourrait presque dire, mais le mot médiation est probablement meilleur. Voilà, et c'est une introduction donc aux fondamentaux de la foi chrétienne. Voilà le projet et qui se déroule donc sur 10 séances. Alors, je ne vais pas détailler le contenu des 10 séances parce que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il va y avoir probablement des ajustements en fonction de la manière dont on avancera. Mais effectivement, on tourne bien autour des questions de l'objet de la foi, du sens de la foi, de la structure de la foi, vous voyez ici ce titre-là, la structure de la foi, de la réponse humaine du croire, de la Bible, de la tradition, voilà. Voilà, et on a une séance en janvier, qui est donc après les vacances de Noël, et je me suis dit que pour cette séance qui venait un peu comme conclusion, on pourrait reprendre des choses et réfléchir notamment au rapport entre, enfin en tous les cas, la place de la spiritualité et de la mystique dans une réflexion théologique. Car de fait, ce qui est proposé ici est bien une proposition logique sous un titre que vous voyez ici, que je fais apparaître maintenant, mais que vous connaissez bien, car si je puis dire, c'est ça le contrat, en quelque sorte. L'année est mise sous le titre Dieu à la rencontre de l'homme, et le titre particulier de ce semestre, de ce trimestre, pardon, Comment Dieu se manifeste-t-il à l'homme? Voilà donc le propos. Rencontrer, manifester Dieu, l'homme, voilà. Voilà les objets qui vont être les objets. Alors bien sûr, objet n'est pas le mot juste, hein, ce sont des personnes, mais ce qui va faire l'objet les objets de nos travaux et de nos études pour ce semestre, ce trimestre. Dans ce même document, mais je vais peut-être pas m'éterniser là-dessus ce soir. On pourra y revenir et en fonction de des échos qu'on pourra avoir, dire ben voilà, c'est telle chose qu'on peut aller voir, tel texte qu'on peut aller lire. Donc, enfin, quelques références bibliographiques, bon, il y a toujours de la référence bibliographique, hein, bien sûr, que j'ai classées en deux groupes, comme vous le voyez, catholicisme et théologie, d'une part, donc dans quel cadre sommes-nous, en quelque sorte? Ben, dans un cadre d'une réflexion théologique et dans un cadre catholique. Et puis, ce qui est l'objet, à nouveau, de ce trimestre, sur la révélation et la foi. Donc, trois références ici et trois autres références pour le deuxième groupe. Donc, je renverrai au fur et à mesure du propos à tel ou tel de ces ouvrages ou telle page, d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être, dans le plan lui-même, il y a déjà, par exemple, ici, référence à tel auteur ou référence encore à tel autre. Donc, voilà, vous voyez déjà peut-être... Bon, vous les connaissez ou vous ne les connaissez pas, ce n'est pas important à l'instant présent. Voilà donc le projet général. Donc, vous avez ce document, vous pouvez l'éditer et le relire en détail. J'arrête de le partager et je vais, si vous voulez bien, partager... accordez-moi une seconde pour faire ça, un autre document qui est le plan lui-même pour, enfin le ce que j'appelle l'exemplier, mais c'est un mot barbare qui n'a pas grand intérêt. Je vais le partager, attendez, voilà. Voilà.
S'il vous plaît.
Une seconde encore et voilà. Oui, s'il y a une question, je vous en prie, allez-y. Oui.
Ces livres, est-ce qu'il faut qu'on se les procure obligatoirement ou bien est-ce que vous envoyez des extraits par mail ou par courrier postal? Est-ce que, voilà.
Alors, se procurer obligatoirement, la réponse est non. Je ne sais pas, c'est peut-être Aude qui peut préciser ça un peu plus, mais la réponse est non. Je pense qu'il n'y a pas d'obligation, hein, obligatoire, non. En revanche, je pense que pour avoir ce qu'on pourrait appeler un livre d'accompagnement, mais pas immédiatement, hein, on va pas trancher ça ce soir, mais pour avoir un livre d'accompagnement, ça peut être intéressant en fonction de la manière dont je vais évoquer tel ou tel de ces ouvrages. Vous voyez, et vous serez « Ah, ça m'intéresse !»« Ah, ça me parle !» Ou au contraire « Oh là là, je ne sais pas ce que c'est !» Donc, en fonction de ça, pourquoi pas faire une acquisition? Mais ce n'est pas obligatoire et en fait, comme vous venez de le dire, les textes sur lesquels peut-être je m'appuierai sont d'abord des extraits et je les communiquerai comme je communique aujourd'hui deux ou trois extraits d'ailleurs dans le plan de ce soir. Donc la réponse est obligatoire, non, et il n'y a pas d'urgence du tout. Aude, est-ce que tu veux compléter ce que je dis sur les ouvrages? Je t'ai entendu parler de la bibliothèque tout à l'heure, donc il ne faut pas négliger ça aussi.
Non, c'est vraiment facultatif. C'est indicatif pour ceux qui veulent compléter, comme tu dis, ou aller un peu plus loin. Voilà.
D'accord, ok, très bien, merci. Donc, j'ai partagé un second écran, qui est donc le deuxième document que vous avez en main, en fichier en tous les cas, et qui est notre trame de ce soir. Donc, après ce moment de présentation qu'on vient de rapidement faire, Je voudrais commencer tout de suite à entrer, si possible, dans ce que j'appellerais le vif du sujet. Le vif du sujet en faisant une première étape et en fait en vous proposant, voilà où j'en suis, hein, vous voyez ici, quelques remarques sur le titre de l'année et du cours spécifique de ce premier semestre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Dieu à la rencontre de l'homme, et puis pour ce semestre, comment Dieu se manifeste-t-il à l'homme ? Je voudrais attirer votre attention sur la forme même de ces deux questions. Hein, enfin, la première est une affirmation, la seconde est une question. La forme même qui, me semble-t-il, est tout à fait typique, caractéristique de la foi chrétienne et dit quelque chose de ce qu'est la foi chrétienne. Quand on dit Dieu à la rencontre de l'homme, comment Dieu se manifeste-t-il à l'homme? Il y a une chose qu'on ne dit pas, qui est exactement la phrase inverse, à savoir l'homme à la rencontre de Dieu. Alors, j'ai bien repéré que l'année prochaine a ce titre-là. Mais pour commencer, et c'est ça qui est intéressant, je pense, et qui est caractéristique de la foi chrétienne, pour commencer, on est bien dans une formule, deux formules, peu importe, où on voit que l'auteur, l'acteur, le sujet, comme on dit, c'est Dieu. Dieu à la rencontre. Comment Dieu se manifeste-t-il ? Ça, c'est quelque chose d'important. On pourrait dire, bah, c'est une remarque un peu formelle, un peu simplement grammaticale en quelque sorte, verbale, mais ça va, à mon avis, ça va plus loin. Fondamentalement, même si bien sûr après il va y avoir ce que j'ai appelé tout à l'heure des médiations, mais disons simplement des moyens, mais fondamentalement, le christianisme ne va pas d'abord chercher des moyens pour s'approcher de lui-même, de Dieu. Donc rechercher par ses propres forces des moyens. Je vais lister des moyens, le culte, les sacrifices, la divination, vous voyez ? Le christianisme n'est pas dans une posture qui consisterait à dire que l'humain a des choses à faire qui vont lui permettre de se rapprocher de Dieu. D'abord, alors, ce qui ne veut pas dire qu'à la fin, il n'y aura pas des choses à faire, hein, entendez-moi bien, et anticipez mon propos complet. Mais d'abord, le christianisme s'intéresse, se pose la question de comment Dieu s'approche de l'homme. Comment Dieu vient à la rencontre de l'homme. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que probablement quand on vous a présenté le programme général du CIF, on vous a dit le premier cours, c'est un cours sur la révélation. Donc probablement, on employait ce terme-là, qui est pas forcément un terme qui est évident, dont on se dit, je vois bien de quoi il s'agit. OK, ne voyons pas tout de suite de quoi il s'agit. Mais en revanche, se dire déjà qu'en christianisme, Dieu se révèle, révélation, Dieu se révèle, Dieu parle, et qu'on va donc parler de la révélation de Dieu, mais que c'est bien Dieu qui est l'auteur. Donc, on a quelque chose ici de très particulier. Alors, bien sûr, on va se poser la question, mais comment c'est possible? Mais pourquoi ça? Mais est-ce que c'est bien sérieux ou est-ce qu'on rêve? Vous voyez, tout de suite, ça ouvre 1000 questions. Mais avant de tout de suite aller aux questions, il me semble intéressant déjà de prendre la mesure du fait que l'acteur, c'est Dieu. L'acteur premier, c'est Dieu. Et je trouve, je ne suis responsable d'aucun des deux titres, ni de l'année, ni de ce cours particulier, et je trouve que ces deux titres de l'année et du cours manifestent cela de manière tout à fait intéressante et tout à fait, de mon point de vue, bien sûr, tout à fait juste. Alors qu'on pourrait se dire, je redis, hein, qu'il y a des efforts d'abord à faire. Il y a quelque chose qui relève de l'être humain d'abord, mais là on renverse la chose et on dit c'est Dieu qui vient à la rencontre. Donc on n'est pas du côté d'une de capacité personnelle qu'il faudrait mettre en œuvre avec la force des poignets, même le cas échéant, mais on est plutôt dans une rencontre qui vient à nous, qu'on entend, qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas. On voit bien après qu'il va y avoir bien des postures, mais voilà, d'abord une rencontre qui vient à nous. Pour illustrer ce que je commente ici, par ce simple commentaire factuel des deux titres, je propose de lire en détail. Alors attendez, je vais faire comme ça, voilà, de lire en détail un tout petit extrait, enfin tout petit, 6 versets, un tout petit extrait biblique et d'utiliser en quelque sorte une source biblique pour conforter, pour asseoir cette idée que je suggère et qui est suggérée en fait dans les titres qui sont là. Alors, vous avez une connaissance plus ou moins grande de la Bible, des textes, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques pour l'instant. Je pense qu'il c'est juste intéressant de lire et de décortiquer. Alors, vous voyez, j'ai déjà aidé au décortiquage, si je puis dire, en mettant quelques couleurs que vous devez, j'espère, voir sur votre écran. En mettant quelques couleurs, aider au décortiquage de ce texte qui, à mon sens, dans 6 versets, vous voyez, donc relativement bref, est tout à fait représentatif et intéressant pour asseoir, enraciner dans la source biblique, donc, ce que je suggère dans la compréhension, point de vue général, là, à l'instant, sur révélation. Alors, moi, je fais une proposition ici, parce que là, je peux parler pendant 2 heures, 3 heures, tout ce que vous voulez, mais je fais une proposition. Est-ce que l'un d'entre vous serait prêt à lire ce texte? Si oui, il faut allumer son micro, et le faire un seul, parce qu'autrement, ça serait trop bruyant, difficile à écouter. Est-ce que l'un d'entre vous a cette simplicité aussi et au service du groupe pour lire ces 6 versets?
Oui, moi je veux bien. Emmanuel, merci. Ici.
Emmanuel, allez-y, on vous écoute, parfait.
Allons-nous, une fois de plus, nous recommander nous-mêmes? Ou alors, avons-nous besoin, comme certains, de lettres de recommandation qu'il faudrait vous présenter ou obtenir de vous? Notre lettre de recommandation, c'est vous. Elle est écrite dans nos cœurs et tout le monde peut en avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas, comme la loi, sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Et si nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ, ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle que nous pourrions nous attribuer, notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus capables d'être les ministres d'une alliance nouvelle, fondée non pas sur la lettre, mais dans l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci de cette lecture très, très, très bonne, très bien. Merci. Alors, quelques commentaires sur ce texte. Je dis quand même d'où il est extrait. On ne rentre pas dans le détail biblique, vous aurez toutes les séances avec Roselyne qui vous aideront admirablement à faire ce travail biblique, mais quand même. Alors vous voyez, c'est écrit ici, ce texte est extrait de voilà, la 2 Corinthiens 3. Voilà. Donc on est dans la deuxième lettre, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, et on est dans le chapitre 3, et donc on a les 6 versets dont vous voyez les numéros en rouge. La deuxième lettre aux Corinthiens est parmi les textes les plus anciens du Nouveau Testament. Alors, c'est intéressant hein, ça de se dire qu'ici on a un témoignage parmi les plus proches de l'événement, enfin de la vie et de la mort et de la résurrection de Jésus. On date, les spécialistes datent cette lettre des années 55-57. Donc on est vraiment très proche et on est dans les tout premier texte, parmi les plus vieux écrits, si on peut dire, du Nouveau Testament. Bien sûr, les écrits de l'Ancien Testament sont plus anciens, hein, bien sûr, mais ici, dans le Nouveau Testament, on est dans les plus anciens. Et en fait, Paul, qui est fondateur d'église, et notamment fondateur de l'église de la communauté qui se trouve à Corinthe, Corinthe, c'est une ville en Grèce, hein, voilà, Paul a un problème avec cette communauté qu'il a fondée. C'est qu'il y a eu d'autres apôtres, d'autres prophètes qui sont venus et qui ont mis un peu la pagaille, si je puis dire, en disant, mais enfin, qui est Paul? Vous n'êtes pas obligé de le suivre. Bon, est-ce qu'il a raison? Il dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Bon, voilà. Des choses qu'on connaît dans nos communautés, peut-être, hein, aussi. Bien. Et donc, Paul se trouve en situation de devoir écrire à une communauté qu'il a fondée, en exprimant son autorité, en disant que c'est bien lui qui c'est bien ce qu'il dit qu'il faut suivre, qu'il a donc une question d'autorité. Mais la question, c'est d'où vient cette autorité? Pourquoi est-ce qu'il fait autorité, comme on dit? Et donc, vous voyez le premier verset. Comment je vais faire pour me recommander auprès de vous? Vous voyez, c'est ça la question. Comment je vais faire pour que vous m'écoutiez, quoi, pour que vous me preniez au sérieux? Est-ce qu'il faut que je me recommande moi-même? Je lis le premier verset, enfin, je le glose simplement. Est-ce qu'il faut que je me recommande moi-même en prouvant que, quand même, hein, c'est moi le meilleur, quoi? Ou alors, est-ce qu'il faut que j'ai des lettres de recommandation qu'il faudrait vous présenter pour que, ah, mais un tel lui dit, nous dit qu'il est très bien, donc c'est très bien, d'accord? Ou bien même, est-ce qu'il faut une lettre de recommandation de vous? Vous voyez, le premier verset, c'est la situation. Comment est-ce que je fais pour prouver mon autorité, ma crédibilité? Donc voilà, c'est une situation un peu tendue. Hein. Il est fondateur de la communauté. Il dit à la communauté, notamment dans la première lettre, combien il l'aime comme un père fondateur. Et là, bah, on ne l'écoute plus, quoi, grosso modo. Donc, d'où lui vient son autorité? C'est ça la question. Est-ce qu'elle lui vient d'une capacité? Vous avez entendu, hein, c'est le mot qui vient après dans le verset 5 et dans le verset 6. Est-ce qu'elle lui va lui venir? Est-ce qu'on va la lui reconnaître à partir d'une capacité personnelle? Ah, oh, quel héros, quoi, c'est ça qu'on se dit, hein, une capacité personnelle. Vous entendez le verset 5? Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle. Donc, ce n'est pas parce que j'ai telle et telle et telle qualité que je pourrais m'attribuer. Et voilà le cœur un des premiers éléments fondamentaux de ces quelques versets, la fin du verset 5. Notre capacité, ma capacité, vient de Dieu. Lui, je lis la suite, c'est au 6, nous a rendu capables. C'est la même expression. Hein. Mais vous entendez dans le « nous a rendu capables » le passif. Hein. Ce n'est pas « finalement, j'ai une capacité que j'ai obtenue et qui est bien à moi ». Non, non, je suis rendu capable. Ça, c'est une expression très typique de Paul. Je suis rendu saint, je suis rendu capable. Donc, je ne suis pas du tout… j'ai rien à mettre à mon compte, si vous voulez. Hein. J'ai rien pour me flatter moi-même. C'est « je suis rendu capable ». Et c'est une capacité qui est un rendre capable qui est l'acte même de Dieu. Donc, voilà, l'acte de Dieu pour être, alors pas pour être rien, hein, pour être, regardez le titre tout de même, donné la fonction, si je puis dire, le ministère, quoi, voilà. Pour être au verset 6, les ministres d'une alliance nouvelle. Donc, un statut, une fonction, qui est une grande fonction. Mais c'est Dieu qui rend capable de cela. Donc, vous entendez bien cette manière de répondre à « quelle recommandation puis-je avoir ?» Eh bien, ma seule recommandation, c'est Dieu qui me la donne. Dieu me rend capable d'être ce que je dois être, ministre d'une alliance nouvelle. Mais le texte, vous avez remarqué que je suis passée du verset 1 au verset 5-6, donc qu'est-ce que je fais de 2, 3 et 4, évidemment. Je pense que le texte va plus loin que ça. Ce n'est pas simplement Dieu qui rend capable. C'est évidemment Dieu qui rend capable. Mais c'est aussi, et ça marche ensemble, hein, puisque c'est deux versets côte à côte, si je puis dire, c'est aussi vous. Cette lettre de recommandation, je suis au verset 2, vous le voyez, cette lettre de recommandation qu'on cherche pour manifester que c'est bien lui et qu'il faut bien le suivre, lui, eh bien, cette lettre de recommandation, c'est vous. C'est vous, c'est-à-dire vous, la communauté de Corinthe. Vous, la communauté fondée par Paul qui est à Corinthe. Alors, c'est vous. Parce que cette lettre, elle est écrite dans nos cœurs. Non seulement vos cœurs, hein, mais nos cœurs, il se met dedans. Tout le monde peut le voir. Vous êtes, verset 3, cette lettre du Christ. Écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Autrement dit, dans ce texte, non seulement Dieu rend capable, celui qui n'est pas capable, hein, je suis inventant, dit Paul ailleurs, n'est-ce pas? Non seulement Dieu rend capable, mais en plus, la preuve de cette capacité n'est pas dans telle ou telle puissance ou telle compétence de l'apôtre, elle est dans la communauté. Ce qui est la preuve, alors ce n'est pas n'importe quelle communauté, c'est une communauté qui est caractérisée par quoi? Par le cœur. Ce qui n'est peut-être pas le cas à Corinthe à ce moment-là, parce que les bisbilles sont importantes à ce moment-là. Mais ce qui caractérise cette communauté, c'est le cœur. C'est le cœur et c'est le cœur qui est marqué, en quelque sorte, mais marqué au sens pour faire rouge, on pourrait dire, marqué par l'Esprit du Dieu vivant. Vous voyez, je prends juste des mots du verset 3, je recompose le verset 3 dans ce que je dis là à l'instant. Marqué par l'Esprit du Dieu vivant, parce que, fin de la verset 6, l'Esprit donne la vie. Donc c'est une communauté, c'est la communauté qui est la preuve, c'est vous qui êtes la preuve de la capacité de la lettre de recommandation, mais à la condition que cette communauté vive de l'Esprit et vive. Hein, l'Esprit donne la vie. Donc vous voyez que en 6 versets, c'est pas bien long, 6 hein, versets, ça apparaît sur un écran simplement, combien le tout est tenu par la manière dont Paul exprime, en se posant une question extrêmement pratique, comment je vais faire autorité auprès d'une communauté que j'ai fondée? Eh bien d'abord, même si l'ordre des versets n'est pas ce que je commente exactement, d'abord, cette capacité est donnée par Dieu, elle ne relève pas de nos propres forces, mais elle est également visible, rendue visible, hein, ce que tout le monde peut voir. Ce dont tout le monde peut avoir connaissance et la lire, verset 2. Elle est rendue visible par la manière de la communauté. Donc, vous voyez, ce texte-là, selon moi, manifeste de manière très, très intéressante, très, très brève aussi, hein, mais très intéressante et très ancienne. Hein, je disais tout à l'heure, un texte des années 55, enfin, daté des années 55 par les spécialistes, par les exégètes. Ce texte manifeste de manière très intéressante combien c'est Dieu l'acteur. Dieu nous a rendus capables, mais combien en même temps, une fois que c'est Dieu, que c'est bien lui, Dieu premier, si on peut dire, Dieu l'acteur, Dieu qui se révèle, Dieu qui parle, comme vous voulez, il n'empêche que c'est nécessairement, deuxième caractéristique, après Dieu premier, avec une, ce qu'on peut appeler la coopération, la participation, et de l'apôtre, le ministère de l'apôtre, et surtout de la communauté, devient comme la preuve de ce dont on parle. Et cela, troisième caractéristique, oui c'est ça, cela se manifeste dans la manière même de vivre, hein, l'esprit qui donne la vie, l'esprit du Dieu vivant, c'est la manière même de vivre, le cœur, la chair, les tables de chair sur les cœurs, c'est la manière même de vivre qui est la preuve finale de ce dont il est question ici. Peut-être je voudrais faire un autre commentaire. Vous voyez les petites couleurs que j'ai mises du vert. J'espère que ça apparaît sur vos écrans. Ce que je trouve très émouvant dans ce texte, outre ce que j'ai déjà dit, c'est que déjà parce que c'est un texte des années 55, déjà là, on voit très clairement, en fait, même si le mot n'y est pas du tout et qu'il ne faut pas trop rétro-projeter, on voit très clairement qui a Dieu, qui a le Christ et qui a l'Esprit. Alors Dieu le Père, le Christ et l'Esprit. Donc, je vais dire le mot, mais bien sûr, il n'est pas là. On a déjà cette compréhension trine de Dieu dans un texte des années 55. Donc, vous voyez, parfois on dit « Ah, mais la Trinité, c'est une invention tardive. » Non, ce n'est pas du tout tardif. Et je trouve que ici, on voit les fonctions de chacun, si je puis dire. Si vous regardez au verset 4, nous avons une telle confiance en Dieu par le Christ. Le petit mot là qui est là, le petit, comment on appelle ça, préposition, hein, je pense, par le Christ. Voilà. Cette idée que le Christ, c'est celui par lequel se passe, en christianisme, hein, bien sûr, la révélation de Dieu. Et cela se crée une vie qui est ici, verset 6, dans l'esprit. Les traductions sont bonnes. Hein. Et aussi au verset 3, avec l'esprit. Vous voyez, ces petites prépositions disent des choses extrêmement précises, et justes, mais bon, extrêmement précises en tous les cas, sur Dieu, le Christ, l'esprit. C'est Dieu qui est l'auteur et l'acteur qui se révèle. C'est lui qui donne la capacité, mais cela se fait par le Christ dans l'Esprit. C'est la meilleure formule pour la Trinité, vous savez ça. Dieu le Père par le Christ dans l'Esprit. Et c'est dans un texte comme ici, un texte ancien, comme je le disais tout à l'heure. Donc, déjà une construction et une différenciation de ce qu'on appellera après, pas ici bien sûr, mais après les personnes. En Dieu. Et vous voyez aussi que le texte joue sur des oppositions. Hein, le dernier verset, la lettre tue, l'esprit donne la vie. Qu'est-ce qu'on a encore? Pardon. Attendez, j'ai une bande noire. Là, voilà. La lettre tue, l'esprit donne la vie. On a également d'autres oppositions. Alliance nouvelle, ce qui sous-entend évidemment une alliance ancienne. On a aussi, bien sûr, l'être et esprit, et puis mort et vie. Hein. Donc, tout se joue autour de qu'est-ce qui fait vivre. L'esprit qui donne la vie, c'est ça la chute, en quelque sorte, de ces six versets, le point final. Qu'est-ce qui fait vivre, hein. Et qu'est-ce qui est donc la preuve de cet acte de Dieu qui se manifeste donc, par le Christ dans l'esprit. Ce que je peux vous proposer, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle, là, presque maintenant, c'est peut-être de réagir librement, hein, bien sûr, librement, à ce commentaire qui vient d'être fait ici. Vous voyez que je vous invite, et je pense que ça, je ferai tout le temps ça, mais je vous invite à déjà mesurer le rapport entre une réflexion théologique, on réfléchit sur Dieu qui se révèle, Dieu qui se manifeste auprès des êtres humains, et le matériau, si on peut dire, ce que j'appelle ici la source biblique. Donc je crée un lien immédiat, si je puis dire, dès ce soir, dès la première séance, entre une réflexion théologique pour aujourd'hui, hein, naturellement, et puis un matériau biblique qui permet de vraiment enraciner ce qu'on cherche à exprimer. Donc, ça, c'est une option théologique, si je puis dire, hein, une option importante. Hein, sous-entendu, c'est qu'il n'y a pas de foi et encore moins de théologie sans les Écritures, sans un travail des Écritures, hein, pas simplement une lecture rapide, mais un travail dans les Écritures. Mais comme toujours, c'est une interprétation, hein, c'est ma lecture que je viens de vous proposer. Donc, ça peut être aussi intéressant que l'un ou l'autre réagisse et attire l'attention sur d'autres choses, sur d'autres points qui peuvent être, enfin, qui sont tout aussi importants que ce que j'ai pu pointer. Donc, je vous propose, là, on prend 5 minutes, on respire et puis on peut échanger un petit peu. Et ce que je peux faire, c'est quitter le partage pour que on voit mieux la mosaïque, on se voit mieux tous. Voilà. Qui a envie de réagir, prendre la parole, faire un commentaire, un étonnement, une précision, un commentaire complémentaire, tout est bienvenu. Il faut allumer votre micro, hein, si quelqu'un veut réagir, il faut prendre le micro. Jean-François, je pense, Chantreau.
Oui. Oui.
Voilà, et merci beaucoup. Pardon, je vous coupe, mais merci beaucoup. Une bonne solution, c'est de lever la main quand on veut parler.
Oui, ça permet de mieux vous faire comprendre. Oui.
Absolument. Allez-y. Vous avez.
Moi ce que je voulais vous demander comme précision, si je me souviens bien, Paul écrit en grec.
Oui.
Donc, il a en tête des concepts grecs.
Oui.
Donc, quand vous. Cette formule extraordinaire que vous donnez, là, Dieu se révèle par le Christ dans l'esprit,
ouais.
C'est en fait ce qu'on a appelé en grec. Les hypostases, c'est bien ça.
Oui, oui, oui.
C'est bien ça, je ne me trompe pas.
J'ai employé le mot personne tout à l'heure, mais vous avez raison.
Personne, c'est plutôt le mot latin.
Oui, oui.
Et hypostase, c'est le mot grec. Et il n'y a pas d'équivalent dans les textes antérieurs en araméen.
Oui, exact. Alors, bon, là, vous me posez une question difficile, mais importante. Hein. Oui, oui. Qui est Paul écrit en grec. Ça, c'est votre première affirmation. Elle est parfaitement juste. Paul écrit en grec. Donc, bien entendu qu'il a une culture grecque, une forme de pensée, notamment philosophique, grecque. Mais Paul est aussi un grand pharisien. Donc, il a aussi une forme de pensée sémitique.
Hein, d'accord, donc, d'accord.
Et donc, une connaissance des Écritures très grande. Enfin, très grande, voilà. Et en hébreu.
Bien sûr.
Donc, je pense que Paul, comme tous les apôtres d'ailleurs, enfin comme tous les auteurs bibliques, il faut vraiment toujours les voir comme à la fois d'une koinée, d'une culture générale. Comme nous, on peut dire qu'on a une culture anglophone, vous voyez. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai individuellement, hein, on est bien d'accord. Mais globalement, hein, l'Occident aujourd'hui a une culture anglophone. Ben voilà, il y avait une culture grecque. Hein, on peut à peu près faire la comparaison. On pourrait mettre des nuances, hein, bien sûr, mais on peut à peu près faire la comparaison. Mais en même temps, il y a chez Paul un fort, très fort fond sémitique. Et aujourd'hui, les spécialistes de Paul, de la littérature paulinienne, montrent ça de manière tout à fait intéressante. Hein. Et donc, de fait, vous avez raison. Après, on va... le travail, l'intelligence de la foi, voilà, va... conceptualiser, bien sûr, ce qu'on a ici dans ce texte-là. Il va donc parler d'hypostase, de personne, de substance, bon, voilà. Donc, d'aller vers l'idée d'un Dieu trinitaire. Mais je trouve que ce qui est intéressant ici, c'est justement qu'on n'en est pas là dans l'histoire de la pensée même chrétienne. On n'en est pas là. Mais en fait, tout en n'en étant pas là, tout est là. Par le Christ dans l'esprit, vous voyez ? Et si on cherche toujours à penser la Trinité, ce qu'il faut faire, je pense, penser et prier, le par aidant me paraît deux petits outils, quoi, de pas grand-chose, mais majeurs. Oui.
Je vous remercie beaucoup.
Merci de votre question, merci beaucoup. Donc, vous avez compris, on peut lever la main et comme ça engager un petit commentaire. Voilà, très bien, et je donne la parole à Hugues. C'est ça ? Mettez votre micro, Hugues, autrement, on vous entendra pas. Hugues, mettez votre micro. Ah non, non, dommage, comment on peut faire ? Voilà, ça y est, vous avez votre micro.
Oui,
là,
je voulais vous poser la question sur le premier verset.
Oui.
Paul semble être gêné dans le sens où il paraît être illégitime parce que il n'a pas de lettre de recommandation et donc il essaie de se justifier à travers sa communauté.
Oui.
Ou est-ce que je me trompe ?
Absolument, c'est tout à fait ça. Oui. Alors, vous avez raison, hein, puis je pense que le mot justifié est pas mal employé, enfin, c'est plutôt un bon choix comme mot. Mais de fait, si vous lisez, là on est au chapitre 3, vous voyez, de la deuxième lettre aux Corinthiens, donc ça veut dire qu'il y a deux chapitres avant, on voit bien qu'il y a un petit conflit quand même entre Paul et la communauté de Corinthe. Et donc de fait, il essaye de justifier que c'est bien lui qu'il faut suivre, que c'est bien son enseignement qui est à suivre. Hein, donc de fait, il a... Et ce qui me semble être significatif dans ce texte, c'est ces six versets, c'est à la fois, je le redis, hein, à la fois le fait que c'est Dieu qui rend capable, donc ce n'est pas une force personnelle, hein, à la force de ses poignets, c'est pour ça que je monte mes poignets, mais qu'en même temps, la preuve la plus concrète, c'est la communauté elle-même. Hein, et ça, c'est très intéressant aussi hein, de voir ce rapport dialectique, on peut dire, hein, mais de conversation, peut-être on pourrait dire, entre celui qui annonce l'évangile, c'est ça hein, l'apôtre, celui qui annonce l'évangile et la communauté qui le reçoit. Hein, voilà, donc oui, vous avez bien formulé les choses. Je vois Emmanuel Bertrand. Prenez le micro et prenez la parole.
Oui, moi j'avais une question sur le dernier verset.
Oui.
Qui a suscité beaucoup de polémiques, notamment avec nos amis juifs. Comment comprendre la fin de ce dernier verset d'une manière non blessante ou d'une manière constructive dans notre relation avec le judaïsme
Ah oui, merci, c'est une question vraiment importante. Et puis, même, je dirais, au-delà même de comprendre avec le judaïsme, comment pas simplement être en opposition à la lettre l'esprit. T'es du clan machin ou t'es du clan truc, quoi, enfin, hein, voilà. Donc, soi-même dans son propre compréhension et des textes, et de bien sûr. Alors, c'est une vraie question, mais je pense qu'il y a une piste que je trouve assez intéressante, c'est dans la TOB. La TOB, hein, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Il y a une note, excusez-moi, il faut que je la retrouve. Il y a une note, je l'ai relue en préparant la séance de ce soir, et je me suis dit, cette note, est trop bien, quoi, trop bien. Donc, je vais tâcher de la retrouver et vous la lire, parce que je ne l'ai pas en deuxième épître aux Corinthiens, voilà. Et donc, la note qui est sur ce verset, donc sur le verset 6, 3-6, et voilà. Alors là, il me faut de la lumière pour ça. Et je trouve que cette note a vraiment le souci de votre question. Alors, est-ce qu'elle y répond ?
Lettre O. C'est la note O, c'est ça.
Bravo, c'est la note O. Vous avez entièrement raison, page, dans ma version, en tous les cas, 514.
514, oui.
Ok, ben on est bien au même endroit, merci. Donc je lis cette petite note, enfin 3-4 lignes. La lettre, donc, cette fameuse « la lettre tue, l'esprit donne la vie ». La lettre est, ici, la loi mosaïque. Donc, on est bien d'accord que c'est la Torah, quoi, en fait, hein. En tant qu'elle exige de l'homme une obéissance, vous vous souvenez, obéissance, hein, c'est pas obéir bêtement, c'est écouter, hein, ao baodire, hein, obéissance, c'est écouter justement. Donc une obéissance qu'il est incapable de réaliser. Alors ça c'est paulinien, la loi qui est bonne, ça c'est dans l'épître aux Romains, la loi qui est bonne nous fait mesurer combien nous ne sommes pas à la hauteur de la loi. Aime ton prochain et aime Dieu, on n'y est jamais, ce qui est quand même vrai. Hein, bon. Donc, une obéissance qu'il est incapable de réaliser. Ce qui le conduit à la mort, ça c'est bien l'épître aux Romains. Le judaïsme contemporain de Paul, donc son propre judaïsme, hein, on a dit tout à l'heure, à la fois grec et sémitique, son propre judaïsme, coupait la loi de ses racines vitales. Ça, c'est important. Cette utilisation littéraliste, alors vous entendez, ce n'est pas seulement la lettre, ça devient littéraliste et légaliste de la loi, on faisait une forme morte.
Forme morte, non, bien sûr.
La Nouvelle Alliance n'est pas un texte qui vient compléter l'ancien. C'est à partir de là que je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que là, ce que je viens de dire pour le moment, on est plus dans l'analyse historico-sociologique du judaïsme du temps de Jésus, hein. Et à partir de là, ça devient vraiment très, très suggestif. La Nouvelle Alliance n'est pas un texte qui compléterait l'Ancien, mais le passage, donc la Nouvelle Alliance, hein, un passage de ce qui est écrit à ce qui est vécu. Écrire, écriture, vie. Hein. Vécu, pardon, j'ai pas fini, dans le cœur. Sans l'esprit, le texte tue. Mais sans le texte, l'esprit serait à faune, n'aurait rien à dire, ne dirait rien. Je vous invite vraiment à lire cette note, on ne va pas plus le commenter que ça. Je vous invite vraiment à lire cette note et puis à lire pas à pas, mot à mot, si je puis dire, la décortiquer, parce que je trouve, c'est pas étonnant, soit dans la tobe, hein, peut-être, mais je trouve que c'est vraiment une piste qui entend votre question, qui la résout, je ne sais pas, mais qui l'entend certainement. Donc, c'est assez intéressant de ne pas simplement être dans une opposition lettre-esprit, et puis la lettre, ça serait là, et l'esprit, ça serait là. Non, non, c'est la dialectique qui importe. Merci. Merci beaucoup de la question. Est-ce que d'autres commentaires peuvent être faits, suggérés? Il me semblait qu'il y avait une main levée, mais peut-être elle a disparu, je ne sais pas. Mais peut-être j'ai mal vu.
Oui, en effet, vous avez répondu à la question. C'était la question que j'allais poser.
Bon, très bien. Merci beaucoup. Christophe, c'était vous qui parliez là à l'instant, non? C'est vous qui avez la main levée, Christophe, peut-être.
C'est Jean-Marie.
C'est Jean-Marie, pardon. Oh là là, excusez-moi. D'accord.
Il y a quelqu'un d'autre là.
Mais il y a quelqu'un, oui, je vois une autre main levée.
Oui. Christophe, je crois. Christophe Kolmunzer, non? Mais vous n'avez pas de micro, Christophe, on ne vous entend pas. Mettez votre micro.
Ah bah voilà. Sans micro, c'est
mieux.
La question que je voulais poser, c'est que, bien sûr, dans la question précédente, l'esprit et la lettre, l'esprit existait avant l'incarnation de Jésus, parce que Dieu est, pour moi, Dieu est trinitaire dès le départ.
Oui.
Donc, Mais j'ai un peu du mal à comprendre comment l'esprit s'est manifesté avant l'incarnation de Jésus. Comment on interprète cette situation?
L'esprit planait sur les eaux, début de Genèse. Alors, c'est une question encore difficile, hein, vous avez des questions particulièrement difficiles les uns et les autres.
Je fais exprès.
Vous faites exprès, bien sûr, autrement ça ne serait pas amusant. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question, parce que je ne suis pas sûre d'être capable de répondre à votre question, mais j'ai envie de dire la chose suivante. Ce qui me paraît déterminant dans la manière chrétienne de parler de l'esprit, c'est qu'en fait on va souvent dire, pas seulement l'esprit de Dieu, mais aussi l'esprit de Jésus. Il remit l'esprit et il souffla, remit l'esprit, c'est la passion, et il souffle son esprit sur les disciples, c'est la Pentecôte. Donc c'est cette forme-là d'esprit, enfin, c'est pas une forme bien sûr, mais c'est ce mode de vie que Jésus nous montre dans sa vie terrestre, qu'on peut résumer dans le don de soi. Hein. Ben, très résumé, bien sûr, hein, mais c'est ce mode-là qui est l'esprit de Jésus, ce mode-là de vie. Et ça, c'est à la fois c'est l'esprit de Dieu, mais à la fois on le comprend parce que c'est l'esprit de Jésus. Vous voyez, ce que je mettrais comme petite pierre dans ce point de conversation, ce n'est pas une réponse 100% à ce que vous dites, mais à la question que vous posez, mais c'est de faire cet écart entre l'Esprit de Dieu, qui évidemment remplit l'Ancien Testament, et puis l'Esprit de Jésus, que l'on voit dans la vie, dans le mode de vie, hein, la forme de vie, si vous voulez, on peut dire, de Jésus. Ça vous dit un peu ?
Merci, oui.
Oui, bon, très bien. Quand on a levé la main, c'est génial, on a posé une question, c'est génial, mais après on baisse la main pour que moi je sache où on en est, des mains levées, des mains abaissées. Donc voilà, Emmanuel, peut-être vous pouvez…
Non, moi j'ai une autre question en fait.
Ah bah pardon, alors, c'est la deuxième main, d'accord, allez-y.
J'ai l'impression de voir des références aussi à Jérémie dans ce texte, avec la notion de nouvelle alliance et la loi dans le cœur, la Jérémie 31. Et vous ne l'avez pas cité, et je voulais savoir quelle est votre lecture de cette référence.
Ah ben, tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Alors, Jérémie 31, par exemple, mais mesurons simplement, là, à l'occasion de cette référence, combien tout le Nouveau Testament est sans cesse plein de réminiscences, si on peut dire. Parce que ça ne va pas être forcément des références comme on les fait, nous, deux points, ouvrez les guillemets, et puis il faut mettre en note de bas de page qui c'est, où c'est, mais de réminiscences, hein, de choses qui viennent comme naturellement à la plume ou à la bouche, puisqu'il dictait, hein, bien sûr, à la bouche de Paul ou de celui qui parle, parce qu'il en est habité, bien sûr, oui. Mais je pense qu'il faut vraiment le voir tout le temps comme ce qui fait la pâte, presque on pourrait dire, hein, la matière du Nouveau Testament. Donc oui, en l'occurrence, Jérémie, bien entendu, bien entendu. Vous avez, hein, quand vous voyez dans les Bibles, vous avez souvent ce qu'on appelle les Bibles de travail. Alors, donc, souvent vous avez, je vous le montre comme ça, c'est peut-être pas très facile, je ne sais pas, des colonnes là à droite et à gauche où en fait on voit ce à quoi ça renvoie en quelque sorte. Ce à quoi ça fait allusion, à la fois dans le Nouveau Testament et à la fois dans l'Ancien. Donc, c'est toujours intéressant de voir tous les échos, en quelque sorte, qu'il peut y avoir dans le texte biblique. Le texte biblique est rempli et nourri d'échos à lui-même, en fait. Donc, d'interprétation de lui-même. Oui, est-ce qu'il est raisonnable de faire une pause ? Qu'est-ce que vous en pensez, Aude, est-ce que vous êtes encore là? Qu'est-ce que vous en pensez, Aude? Il est de tradition de faire une pause. Quand on est en présentiel, souvent on fait une pause, mais je ne sais pas si on en fait une ici.
Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire, sauf si quelqu'un a vraiment besoin. Moi, je continuerai, mais...
D'accord.
Je vous laisse, si quelqu'un veut, si vous êtes nombreux à absolument vouloir, vous le dites.
Oui. Bon, on a commencé doucement en début de soirée, donc on peut peut-être continuer. D'accord, ok, très bien. Donc... Je repartage, excusez-moi, je repartage l'écran, je reviens donc sur le papier sur lequel on était. La révélation, un acte divin, ça c'était bien le premier point, et cette matière qu'on trouve dans cet extrait particulier que j'ai choisi, qui déjà ouvre, comme vous le voyez, des dizaines de pistes, et bon, on ne les a sûrement pas toutes épuisées, loin de là. Mais bien sûr, à cela... Des réponses humaines qui vont être diverses et qui, peut-être, dans certains cas, ne vont pas être à la hauteur, pourrait-on dire, de ce qui peut être attendu. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette diversité. Alors, si vous avez édité, j'ai progressé depuis le moment où j'ai donné le papier et puis ce soir, si vous avez édité le texte, vous voyez que le titre est un tout petit peu changé ici. Donc, corrigez votre feuille votre feuille papier. Réponse humaine, je suggère trois manières d'être en quelque sorte. Trois manières de répondre. Résistance, refus, acceptation. Alors, on va à nouveau bibliquement lister ça, mais rapidement, parce que c'est des choses qu'on a facilement en tête les uns et les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des réponses. la diversité et leur emboîtement possible. La première réponse que la Bible nous raconte à cette proposition de la rencontre, au fond, c'est une réponse de résistance. Et on pourrait dire que c'est une réponse plutôt intelligente, hein, plutôt lucide en quelque sorte. Hein. S'il est certain que les humains n'ont pas à être passifs devant l'offre de Dieu, la première réaction lucide et, moi je dirais, intelligente, c'est de se dire « Ah non, pas moi !» « Ah non, je ne peux pas, ce n'est pas possible de répondre à une telle offre, hein, la résistance. » Alors, ça va être, pratiquement pour qui a un peu lu l'Ancien Testament, vous pouvez faire voir combien, vous souvenir combien c'est au fond, tous les prophètes commencent comme ça. Tous les prophètes commencent par dire « Ah non, pas moi, je ne peux pas. » Alors, Moïse, il a des cailloux dans la bouche. Jérémie, il dit « Je suis un enfant, donc je ne peux pas. » Tout ça est vrai, hein, enfin, est vrai. Peu importe, mais ils n'inventent pas une histoire, ils mentent pas. Mais la première réaction, c'est de dire « je résiste à une telle offre de la part de Dieu, être rendu capable d'être les ministres de l'Alliance de Dieu ». Donc vous avez ici, j'ai rassemblé, mais c'est sous mode d'évocation simplement, par exemple Moïse qui répond, enfin, Dieu invite Moïse dans l'Exode, hein, Exode ici, Dieu invite Moïse, « Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Réponse de Moïse, « Qui suis-je » Sous-entendu, je suis rien, quoi, hein, je ne suis pas capable. « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël ?» Pour sortir d'Égypte, pardon, les enfants d'Israël. Je ne lis pas la suite vous la connaissez, hein, c'est « Je serai avec toi ». Mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. De même en Jérémie, on évoquait Jérémie à l'instant, le prophète est appelé et réponse de Jérémie, panique hein, en quelque sorte, « Ah, Seigneur éternel, voici, regarde, je ne sais point parler, car je suis comme un enfant. » Comment en devenir un prophète pour annoncer quelque chose voilà. Donc, d'abord une résistance et qui, dans le récit biblique en tous les cas, est de bonne aloi. C'est plutôt bon signe en quelque sorte de commencer par dire ah non je peux pas, ah non je peux pas, c'est pas moi, faut en chercher un autre. C'est plutôt bon signe, c'est un signe de lucidité, c'est un signe où au fond on exprime qu'on a la mesure de ce qui est impliqué dans la rencontre avec Dieu et dans le fait que Dieu veut se révéler, à tel point que cette résistance que je qualifie de plutôt intelligente et lucide, peut se transformer, peut aller en tous les cas vers le refus, vers une incapacité à passer à un stade suivant, ou du moins à passer au stade suivant qui soit le refus. Il y a un épisode très, très, très bouleversant, je pense, hein, dans l'évangile de Marc, donc premier évangile, dans l'évangile de Marc, on appelle l'épisode du jeune homme riche. Peut-être vous avez en tête cet épisode. Est-ce que quelqu'un veut lire les deux versets là, qui sont... Ils ne sont pas sur le papier, hein, ils ne sont qu'à l'écran, s'il vous plaît. Donc, c'est Marc 10, 21, 22, deux petits versets. Enfin, petits. Quelqu'un veut les lire? Oui? On a eu Emmanuel tout à l'heure, merci Emmanuel, il faut prendre la suite d'Emmanuel. Vous le voyez tous à l'écran au moins, oui?
Oui.
Oui, ok. Bon, quelqu'un se lance, oui, il ne faut pas être hésitant.
Je veux bien.
Merci.
Et Jésus, le regardant, l'aima et lui dit, « Une seule chose te manque, va, tout ce que tu as, vends-le, donne-le à des pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. » Et à cette parole, il s'assombrit et s'en alla tristement, car il avait de grands biens.
Merci beaucoup de cette lecture, merci. Alors vous voyez là, on est au-delà de la résistance, ou du moins c'est une résistance qui s'accomplit en quelque sorte, dans la tristesse en tous les cas. Qu'est-ce qui se passe dans ces quelques phrases? La relation, la rencontre, pour se réaliser, pour devenir effective en quelque sorte, et pas seulement imaginaire, doit se concrétiser dans des actes. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi. C'est radical, hein, naturellement. Ça mérite de réfléchir tout de même pour faire ça. Mais donc, cette rencontre, cette Dieu qui rencontre l'homme, Dieu qui se révèle à l'être humain, cela ne peut pas aller sans, doit aller avec, donc, une manière de vivre. Hein. Vends, donne aux pauvres, suis-moi. Mais bon, on voit bien ici qu'il y a comme une sorte d'une interrogation plus large hein, qui arrive ici. Parce que ce n'est pas seulement il avait de grands biens et il ne voulait pas vendre ses biens. Hein. On n'est pas seulement dans cette situation-là. C'est aussi l'assombrissement, si on peut dire, enfin, c'est comme ça que c'est traduit en tous les cas, et la tristesse du jeune homme riche. Donc il ne s'agit pas seulement dans ce qui est proposé à la rencontre de Dieu, il ne s'agit pas seulement de quitter la possession des biens, la possession immédiate des choses, hein, mais il y a aussi cette tristesse qui interroge au fond sur quelque chose qui est plus large encore, me semble-t-il, hein, ici, qui est une sorte de comment on peut l'appeler, un manque fondamental, hein, qui est celui de Dieu lui-même. Mais en fait, ce manque ne devient réel, ne devient expérimenté, réel pour soi, expérimenté, que dans un art de vivre, dans une manière de vivre. Alors, vous voyez, autant tout à l'heure, j'ai insisté en commentant le Corinthien, combien Dieu est premier, Dieu rend capable. Mais autant, on voit bien que ce n'est pas parce que Dieu rend capable qu'il n'y a pas quelque chose d'équivalent quasiment hein, à faire du côté de l'être humain qui reçoit cette révélation de Dieu et qui est de changer de vie, en fait. En fait, alors, si on veut le dire autrement encore, c'est se convertir. Et ce qui est remarquable dans le personnage du jeune homme, c'est qu'il mesure l'ampleur de cela. C'est pas juste « je me convertis pas, ça m'intéresse pas, salut », c'est pas ça, hein. C'est « il est tout triste ». Il mesure l'ampleur de ce qu'il ne fait pas. C'est ça qui est, je pense, l'aboutissement en quelque sorte, enfin, l'expérience, le refus expérimenté hein, en quelque sorte. Et ça, je pense que quand Dieu se révèle, quand Dieu parle, la réponse humaine, quand elle est négative évidemment, se joue à cette profondeur-là. On n'est pas simplement oh, « mais moi je ne crois pas en Dieu, ça ne m'intéresse pas hein, ». Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose qui resterait au fond très extérieur à soi. La tristesse, c'est quelque chose de très intérieur. C'est le cœur, encore une fois, c'est le cœur, pour rester dans le vocabulaire de Corinthiens. Mais évidemment, il faut progresser dans ce qui est la réponse humaine. Et progresser, c'est toujours à un moment ou à un autre, en christianisme en tous les cas, se dire, mais que fait Jésus ? Devant cette situation-là, que fait Jésus ? Eh bien, que fait-il, par exemple, dans sa passion ? Évidemment. Donc, ici, Matthieu 26, c'est une référence, hein, c'est par exemple, on trouve ça dans plusieurs évangiles. Quelqu'un veut lire ce verset, simplement ? D'accord. Ici ? Et s'en allant ?
Et s'en allant un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. »
Merci beaucoup de votre lecture. Alors, vous voyez ici, d'abord résistance, et une résistance, je disais tout à l'heure, lucide, intelligente. Ben oui, lucide et intelligente, que cette coupe passe loin de moi, s'il est possible. Pas de masochisme, hein. On ne part pas la fleur au fusil, comme on dit. Non, non. Que cette coupe passe loin de moi s'il est possible. Donc, résistance. Mais ce n'est pas une résistance qui va conduire à un refus qui sera expérimenté dans la tristesse, comme on le disait à l'instant, mais c'est un retournement de conversion, non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Donc, une adhésion, en fait, à la volonté divine, évidemment, qui est que seul Jésus réalise vraiment et réalise dans ce moment de la passion. Mais vous voyez que le parcours que je propose ici très rapidement, hein, naturellement, on approfondira ces questions-là dans telle ou telle séance, on voit ce qui est enfin, retenir, c'est la diversité des réponses humaines. Mais il n'y a pas, comment dire, il y a aussi une progression dans ces réponses. Hein. On n'est pas dans, il y a une bonne, il y a une mauvaise. C'est pas si simple. C'est pour ça que j'ai un peu transformé en mettant trois formules, trois postures en quelque sorte. Hein. Il y a une diversité qui est donc en progression, hein, qui peut être en progression ou en dégression dans le cas du jeune homme riche, mais qui est aussi quelque chose qui se construit dans l'histoire et dans le temps. Donc des réponses humaines entre résistance, refus, acceptation. Dieu premier, certainement, Dieu rend capable, ce n'est pas une capacité personnelle, ça fait rentrer en dynamique par le Christ et dans l'Esprit, mais il n'y a pas du tout de passivité, hein, vous voyez, même si rendu capable c'est un passif, il n'y a pas de passivité du côté de l'être humain, il y a des possibilités de réponse et des possibilités de réponse variées, et variées qui progressent et qui peuvent évoluer d'ailleurs aussi dans le temps. D'où, j'avance un peu, hein, c'est parce que je vois le temps filer, donc on ne commente pas plus peut-être cette étape-là, d'où la nécessité de souhaiter, de chercher, de travailler, comme on dit, à la rencontre, puisqu'il y a cette résistance au fond en chacun, qu'elle aille vers du refus ou qu'elle aille vers l'acceptation et la conversion. Il y a aussi un travail à faire, en fait, intérieur, pour chercher, désirer, au fond, ça serait même peut-être plutôt désirer, mieux que souhaiter chercher, désirer cette rencontre de Dieu qui se révèle, d'un Dieu qui se révèle. Alors, pour réfléchir à ce point, je vous propose à nouveau un texte, et vous voyez, je vous donne les textes en même temps, hein, c'est ça l'intérêt, je ne sais pas, mais disons la fonction de l'exemplier. Pardon. Je fais une référence à un texte peut-être que vous connaissez bien, qui est le premier texte qu'a publié personnellement, puisqu'il avait publié avant avec Benoît XVI, qu'a publié le pape François, l'exhortation apostolique sur l'annonce de l'évangile dans le monde d'aujourd'hui, qu'on connaît bien, qu'on connaît je pense, sous le titre d'Evangelii Gaudium, qui a donc été publié en novembre 2013, hein, François a été élu en mars 2013. On peut dire que c'est son un premier texte personnel. Et c'est le texte qui est perçu par tous aujourd'hui, depuis sa publication d'ailleurs, qui est perçu comme vraiment le texte programmatique de ce pontificat. Alors, bon, ça c'est une présentation en trois mots de ce texte que si vous l'avez jamais lu, alors pour le coup, là, vous voyez, tout à l'heure, l'une d'entre vous disait « Mais qu'est-ce qu'on lit ?» Si ce texte-là, vous ne l'avez jamais lu, vraiment, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Ça se trouve sur Internet, hein, il n'y a même pas besoin de l'acheter. Vous le trouvez sur le site du Vatican, en français, sur Internet. Donc, c'est facile à obtenir comme texte. Donc, alors, c'est un texte très riche, hein, donc je me focalise sur un point qui est notre sujet d'aujourd'hui, cette thématique de Dieu qui se révèle et donc qui vient à la rencontre, qui se manifeste et vient à la rencontre de l'être humain. Et c'est très intéressant de voir ce texte de François, d'Evangelii Gaudium, qui commence, vous voyez, c'est le numéro 1, donc c'est le premier paragraphe, qui commence par tout de suite aborder la question de la rencontre. Alors, là encore, je vais appeler un lecteur, ça va être un petit peu plus long, mais on peut passer, enfin, oui, non, c'est pas très long quand même. Est-ce que quelqu'un veut nous lire j'ai découpé, hein, vous voyez qu'il y a des coupures, donc ce n'est pas la totalité des premiers paragraphes, mais quelqu'un veut nous faire profiter de sa lecture? On a déjà eu trois lecteurs, hein, si, donc on en attend un quatrième.
Alors, je commence?
Oui, merci, allez-y.
La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours.
Merci. Peut-être vous lisez le paragraphe. Alors, vous voyez, je n'ai pas mis le paragraphe 2. Vous voyez les petits points. Vous voulez lire le premier alinéa du paragraphe 3, si vous voulez bien ? Oui, oui, merci.
J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas. Et quand quelqu'un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.
Merci beaucoup, merci de votre lecture. Vous voyez, attendez, il faut que j'arrive à faire apparaître tout le texte. Non, c'est pas terrible. Excusez-moi, c'est pas terrible sur l'écran. On va faire mieux comme ça. Voilà, ça va être mieux comme ça. Alors, on est donc dans les premières phrases de cette encyclique, de cette exhortation apostolique, qui porte sur la joie de l'Évangile, hein, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Voilà, c'est les premiers mots. Alors, la joie de l'Évangile, grosso modo, quand est-ce qu'on l'a ? Quand est-ce qu'on l'a ? Dans le cœur. Et dans la vie, vous entendez les mots que j'ai dit tout à l'heure, hein, dans le cœur et dans la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Alors là, on peut se dire, ben voilà, je rencontre Jésus. Ah non, 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 regardez la suite de la phrase. Enfin, la phrase suivante plutôt. Ceux qui se laissent sauver par lui. Ce n'est pas ceux qui, à la force du poignet, vont se faire sauver par. Vont se sauver eux-mêmes. Non, non. C'est ceux qui se laissent sauver. Ça, c'est une phrase là encore extraordinaire et plutôt bien traduite, hein, vous savez, c'est en italien. Se laisser sauver par lui, sont libérés. Alors là, une liste qui est très fréquente chez François, du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Alors, cette liste-là, elle est aussi très intéressante parce qu'elle n'est pas, dans un texte plus classique, on aurait « se laisse sauver par lui, sont libérés du péché ». Ce serait tout à fait juste, hein, en plus. Mais chez François, il y a toujours une manière d'exprimer plus existentielle ce dont il s'agit d'être libéré. C'est du péché, bien sûr, mais c'est concrètement et tellement, tellement juste d'un point de vue contemporain. Regardez les trois mots, hein, tristesse, vide intérieur, isolement. Tout à l'heure, notre jeune homme riche était très triste. D'où, avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. J'en viens à la linéa, enfin, au numéro 3. Donc, le pape parle à chacun, à chaque lecteur. J'invite chaque chrétien, en quelque lieu qui se trouve, quoi ? À renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Donc là encore, on se dit, ah, voilà, un effort à faire. Ou au moins, pas forcément à y aller à la force, je redis cette même expression, pardonnez-moi, mais à la force de ses poignets, mais au moins quoi, c'est ce qui est écrit en gras, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Alors, vous remarquez combien c'est subtil, hein, c'est fin. Il ne s'agit pas d'être passif, de rien faire et de se dire... ça me tombera bien sur le coin de la figure un jour ou l'autre. Ça, c'est du fatalisme. Non, 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 non. Il s'agit bien de se laisser rencontrer par lui. Donc, c'est bien lui l'acteur. Mais n'empêche que se laisser rencontrer par lui, il faut le décider. Et là, nous redevenons chacun acteur. Prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Si vous avez juste une phrase à retenir de ce soir, c'est ça, c'est celle-là. Après, vous retenez aussi les textes bibliques. Mais s'il y a une phrase à retenir, c'est cette complexe, hein, d'ailleurs. C'est pas ou bien je décide et je fais des choses, ou bien Dieu fait tout et moi rien. Non. C'est prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Mais bien sûr que c'est lui qui est à l'initiative de la rencontre. Se laisser sauver, c'est lui qui sauve, hein, se laisser sauver par lui. Se laisser rencontrer, prendre la décision, et donc de le chercher chaque jour sans cesse. Ensuite, le commentaire où il y a motif pour qui que ce soit de se dire qu'il est pas, il est exclu de cette proposition, de cette offre. Hein. Et au contraire, la découverte de la réalité de cette offre, c'est de découvrir combien Dieu est toujours déjà les bras ouverts. Hein. Si vous avez une image biblique là, qui peut venir, c'est évidemment l'image du récit du fils prodigue. Donc, prendre la décision de se laisser rencontrer par lui. Dieu vient à la rencontre et il s'agit de prendre la décision de se laisser rencontrer. Quelqu'un peut... Merci hein, de cette première lecture de ce début d'Evangelii Gaudium. Quelqu'un peut lire le deuxième alinéa du point 3, du paragraphe 3? Oui, Isabelle, allez-y. Ou bien vous avez une question peut-être, Isabelle?
Non. Je proposais de lire.
Ah oui, parfait, allez-y, merci.
Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner 77 fois, Matthieu 18, 22, nous donne l'exemple. Il pardonne 70 fois 7 fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l'autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus. Ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant.
Merci beaucoup de cette lecture. Merci. Alors, on voit ici dans ces 5-6 lignes, 6-7 lignes, on voit toutes les formules qu'emploie le pape dans ce petit descriptif pour dire ce que c'est que concrètement la rencontre, ce que c'est que l'offre de rencontre faite par Dieu. Donc, regardez les verbes. Se fatigue jamais de pardonner. Alors, c'est les fameux 77 fois, 70 fois, 7 fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, pardon. Chargé sur ses épaules. Il revient nous charger une fois après l'autre. Donc, c'est 70 fois, 7 fois, là encore, hein, une fois après l'autre. Ce qui est donné, conféré, hein, mais ce qui est donné qui devient mon bien propre, quasiment, c'est un amour infini et inébranlable. C'est même la possibilité de relever la tête, de recommencer, donc d'être sans cesse dans la relance. Tout à l'heure, on disait en commentant, on faisait une référence à Romain, la note de la Tobe que je lisais, en disant « la loi nous juge, et nous juge parce que nous mesurons notre incapacité à réaliser la loi ». Donc là, il n'y a pas du tout de fierté, où on dirait qu'on peut réaliser la loi. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est sans arrêt relancé, relever la tête et recommencer, sans cesse, avec tendresse, sans jugement, qui ne déçoit pas et qui rend la joie. Donc la résurrection nous relance en scène, nous permet de ne jamais être vaincus, de ne jamais dire « advienne que pourra », donc autrement dit « on verra bien, on s'en fout ». Non, sans cesse relancer pour davantage de vie, et davantage de vie, pas statique, mais qui nous pousse en avant. Donc, vous voyez, la proposition, l'offre de la rencontre, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui rentre dans la dynamique qui est décrite par tous ces verbes et toutes ces postures là qui viennent d'être lues et que j'ai redites à l'instant. C'est dans cette dynamique-là que s'expérimente la rencontre. Alors, non seulement il peut y avoir la crainte, juste, pas moi, je ne suis pas capable, je n'en serai pas capable, je suis un enfant, j'ai les pierres dans la bouche, etc. Mais il y, y a aussi cette expérimentation d'une vie sans cesse renouvelée, telle qu'elle est décrite ici avec un petit nombre de situations. Voilà, donc là je viens de commenter à sa lecture quelques lignes simplement hein, d'Evangelii Gaudium du pape François, premier texte de 2013, et qui, me semble-t-il, dans l'argument de la joie de l'Évangile, n'utilise pas le mot révélation, comme vous le voyez cette quinzaine de lignes, hein, le mot révélation, où Dieu se révèle, on n'a pas ce mot-là, mais n'empêche que c'est ce dont il parle, cette capacité constante qu'a Dieu à venir à la rencontre, au point qu'il s'agit de se laisser rencontrer par lui, de le laisser venir à nous, mais que c'est une décision à prendre. Donc on a bien à la fois ce qui était la structure du plan, un acte divin, mais un acte divin qui ne va pas sans les réponses humaines, des réponses humaines qui sont diverses et variées. Alors, j'ai bien conscience que c'est un grand parcours aujourd'hui, enfin c'est un grand survol plutôt. Vous mesurez probablement, enfin vous imaginez probablement que les étapes suivantes et les séances suivantes, on va approfondir tel point, puis tel autre, puis tel autre, puis tel autre. Hein, bien sûr, la proposition divine, la réponse humaine, les formes de la réponse humaine, voilà, tout cela sera à approfondir étape par étape et soirée par soirée. Mais je voudrais terminer en disant au moins une chose, si je puis dire, hein, une simple chose. Si on est d'accord que tout ça est parcouru vite, bien sûr, en première séance, et que ça ouvre à beaucoup de questions, et des questions pertinentes, hein, pourquoi c'est comme ça, comment c'est possible, quel sens ça peut avoir, bon voilà, objet des séances prochaines. Je voudrais juste terminer cette séance ce soir en disant que cela n'est pas, comme on dit, hors sol, n'est pas, elle nous a parlé de trucs, mais qui planent pendant une heure, et puis après, revenons dans le réel. Non, non, c'est totalement réel, et c'est totalement dans le présent. Donc, ce qui est à penser, c'est pas seulement ce qu'on vient de dire depuis un moment, mais c'est à penser dans le contexte contemporain, dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, le contexte d'aujourd'hui, je vous ai mis un petit texte, on va peut-être pas le lire en entier, parce qu'il est peut-être il est pas très long quand même, mais enfin, il fait quand même une quinzaine de lignes, qui vient d'un théologien qui a été doyen de la fac de théologie de Paris, Henri Jérôme Jay, donc un texte écrit en 2017. Ce qui est intéressant, vous le lirez tranquillement, hein, vous prendrez le temps de le lire si ça vous mobilise, si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ce contexte contemporain, qui est notre contexte, hein, chrétien ou pas chrétien, c'est notre contexte, et dans lequel il s'agit de penser la foi. Hein, évidemment, on ne pense pas hors sol, on ne pense pas sur un nuage, en planant sur un nuage. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cet auteur, donc, moi je suis vraiment en accord avec sa manière de dire, décrit le contexte contemporain. Alors, ce qu'il faut retenir de cette description du contexte contemporain, c'est qu'en fait, évidemment, il est complexe, notre contexte. Il est, peut-être une des meilleures manières de l'approcher, c'est d'utiliser ce qu'il appelle ici une fameuse, je ne sais pas si elle est fameuse, mais enfin, peu importe, la fameuse triade, que je surligne ici, donc trois formules, en quelque sorte, en disant, mais voilà, notre contexte contemporain, c'est un croisement complexe, jamais stabilisé, entre trois approches de la réalité qu'on peut qualifier, chacune de ces approches avec trois mots, tradition, modernité, postmodernité. Bon, c'est des mots qu'on entend, qu'on sait, qu'on connaît, qu'on utilise. Mais voilà, notre contexte pour penser Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, et donc la révélation chrétienne, puisque c'est ça notre sujet, c'est nulle part ailleurs, si je puis dire, il n'est pas possible que ce soit ailleurs que dans la situation présente, qui est cette articulation, ce croisement entre tradition, modernité, postmodernité. Alors, croisement qui, bien entendu, va avoir, selon les moments, selon les personnes, selon les cultures, des accentuations plus ou moins fortes. Hein. On va dire, pour tel groupe sociologique, pour telle personne, la postmodernité, grosso modo, n'a pas encore atteint. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui est loin de toute tradition. Bon, vous voyez, donc la combinaison des trois est tout à fait variable en fonction des situations et des personnes. Mais il n'empêche que c'est bien cette combinaison qui est notre situation présente. Alors, que signifient ces trois mots, rapidement dit ? Tradition, regardez, j'ai surligné quelques mots, hein, c'est l'existence humaine qui est enracinée. Je ne lis que les choses surlignées, comme vous le voyez. L'existence humaine qui est enracinée, donc grosso modo on sait où on est, et orientée vers le ciel. Mais c'est une époque de stabilité. Donc une époque où on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'il faut faire, ce qui n'est pas possible de faire. Et on est enraciné. L'enracinement peut être excellent, mais peut aussi avoir ses défauts, c'est-à-dire qu'on est statique et qu'on ne bouge pas et qu'on ne peut pas bouger. Ça, c'est tradition. Oh, c'est vrai dans toutes les cultures, hein, ça. Hein, c'est pas un commentaire spécifique à l'Occident, hein, ce que je dis là. La tradition se heurte, rencontre et se heurte à la modernité. Alors, la modernité, on va dire comme ça, globalement, que ça commence à peu près à la Renaissance. Mais en fait, qu'est-ce qui caractérise, au-delà de l'aspect daté, qu'est-ce qui caractérise, c'est plus cette fois-ci une existence humaine enracinée, mais c'est une caractéristique de l'être humain comme sujet autonome, et qui va donc développer son esprit critique. Voilà, probablement l'expression qui caractérise la modernité, c'est l'esprit critique. Ça veut dire qu'on peut questionner, on doit s'interroger. Et on doit aussi s'interroger sur les religions, hein, bien entendu. Mais ça veut dire qu'aussi cet esprit critique, alors qu'on était dans une position de stabilité, va tout mettre en mouvement, va sans cesse interroger et sans cesse faire bouger les choses. Et au lieu d'avoir des racines, enracinées, on va avoir des outils, des moyens, des outils. Et cette fois-ci, ce n'est plus vers le ciel. Alors, quand on est vers le ciel, c'est qu'on est orienté vers Dieu, vous le comprenez bien. Hein, mais c'est vers le futur. C'est l'idée même que c'est devant nous, que c'est le devenir qui importe, que c'est l'idée du progrès. Hein. Vous voyez des choses qui sont nos vies quotidiennes. Hein, ce que je décris là, ça fait partie de ce qu'on vit au quotidien. Mais la modernité a trouvé sa critique, si on peut dire, dans la post-modernité. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce qui vient après la modernité. Alors, certains vont aussi parler d'ultra-modernité. Je ne rentre pas dans ce débat, il peut être intéressant, mais c'est pas notre sujet. Post-modernité, peut-être depuis, allez, on va dire, 30 ans, 40 ans, 50 ans au maximum. Et au fond, qu'est-ce qui caractérise cette post-modernité, ou comment on peut essayer de caractériser cette post-modernité ? C'est qu'on n'est plus dans la stabilité, l'enracinement, qu'on n'est même plus dans le mouvement orienté, dynamique, esprit critique vers le futur, on est dans un moment où les points de repère sont manquants. Et les points de repère sont manquants parce qu'en fait, on est sans cesse, non pas en racine ou en outil, mais on est sans cesse à la recherche d'équilibre. Et à la recherche d'équilibre, comme tout équilibre, vous avez au moins fait un peu de vélo, un peu de skateboard ou de je ne sais pas quoi dans votre vie, des choses comme ça, l'équilibre, on est sans cesse en train de le chercher et on est sans cesse en train de le perdre. Donc, ce n'est pas du tout de la stabilité et de la racine, ce n'est pas du tout des outils solides et puissants, mais c'est de la recherche d'équilibre dans un monde, comme on le décrit aujourd'hui, de réseaux, de flux, de mobilité. Mais surtout dans un monde, qui est sans orient. Alors, il emploie cette expression sans orient, mais fondamentalement, l'idée, c'est sans orientation, hein. Donc, si l'un était vers le ciel, si l'autre était vers le futur, là, ici, on est dans un moment, et ça aussi, c'est nos vies, hein, ça caractérise nos vies, dans un moment sans orientation commune, évidente, partagée, qui appartient au bien commun, si on peut dire. Et alors, ce qui est caractéristique de ce moment-là, et ça va faire écho avec des choses que j'ai pu dire, notamment en commentant la deuxième lettre, enfin le chapitre 3 de la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est qu'au fond, aujourd'hui, notre situation de manque de repères, de recherche d'équilibre, toujours en déséquilibre, c'est qu'au fond, personne ne peut dire avec une autorité indiscutable, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je présume que nombre d'entre nous sont des parents ou des grands-parents, le cas échéant, Et on voit combien, ou des enseignants, enfin voilà, toutes les situations de transmission, on voit combien, enfin, combien c'est devenu, c'est impossible, c'est pas devenu, c'est, ça nous est impossible aujourd'hui de faire un acte d'autorité qui soit justement c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut sans cesse expliquer pourquoi c'est comme ça, et l'absence de, enfin, le manque en tous les cas, si ce n'est l'absence de point de repère, fait que, ben oui, c'est comme ça, mais ça pourrait être autrement. Et comment répondre à cela ? Alors, vous voyez, c'est rapide hein, ce que je viens de faire là. Vous lirez tranquillement cette demi-page. Penser la révélation, puisque c'est ça notre objet, penser la révélation, penser Dieu qui vient à la rencontre de l'homme, c'est à la fois penser ce que j'ai essayé de décrire dans la première partie dans cette soirée, mais c'est le penser dans un contexte complexe, riche peut-être on pourrait dire, mais complexe, qui croise, parce que nous sommes des trois moments tout le temps. À la fois nous sommes avec des racines où l'existence humaine est enracinée dans de la stabilité, à la fois nous avons un esprit critique très développé et des outils pour développer cet esprit critique dans une dynamique, et à la fois, enfin troisièmement, en même temps, nous sommes dans cette situation de recherche constante d'équilibre et de manque de points de repère qui fait que l'orientation n'est pas donnée et qu'elle est sans cesse à réinventer et parfois non réinventable. Donc, penser la révélation, notre objet, c'est la pensée nécessairement, c'est la pensée, enfin, c'est ne pas être hors sol, comme je disais il y a quelques minutes, et c'est donc la pensée dans cette complexité du moment présent. Parce que penser la foi, c'est quand même toujours la pensée pour aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas seulement faire l'histoire de la pensée de la foi, même si on en a besoin, qu'on doit le faire d'ailleurs, mais c'est tenter de penser pour aujourd'hui. Donc voilà, hein, quelques lignes qui nous aident un peu à caractériser, hein. Il y aurait bien d'autres manières de le faire, hein, bien sûr, mais caractériser, en tous les cas par un théologien ici, caractériser ce moment présent et sa complexité. J'arrête le partage, et cette fois-ci, il devient important que j'arrête de parler et que peut-être vous preniez la parole pour quelques questions. Peut-être elles ne seront pas toutes répondues ce soir, mais elles peuvent aussi être la relance de la semaine prochaine. J'ai oublié votre prénom, Madame Jadas. Je vois que vous avez la main levée, donc vous avez la parole si vous le souhaitez. Mettez votre micro, s'il vous plaît.
Non, pardon, c'était tout à l'heure quand je voulais lire.
Ah oui, très bien, merci. Merci. Voilà, il faut l'enlever, c'est bien, merci. Qui est-ce qui... Question, commentaire, souhait, difficulté, trop vite, trop lent, trop compliqué, trop... pas assez compliqué, enfin, toutes les possibilités sont à exprimer. Aude, vous souhaitez intervenir ? Aude Renaud.
Non, c'est pas Aude, c'est François Renaud.
Pardon, c'est François. Très bien, allez-y.
J'avais une question sur la révélation. Est-ce qu'on peut dire que Dieu se révèle à tout le monde? C'est-à-dire que là, tout le monde n'a pas accès à la lettre, par exemple.
Oui, oui.
Est-ce que pour autant on peut dire que Dieu se révèle à tout le monde?
Alors, je vais répondre, hein, bien sûr, enfin, tenter en tous les cas, et la réponse est oui. Mais vous voyez, ce sur quoi je veux peut-être plus cibler ma réponse, c'est combien c'est une question moderne. Si je garde ma trilogie, hein, ma triade d'il y a une minute, et peut-être même post-moderne d'ailleurs, peut-être même. Mais vous voyez, Elle est tout à fait importante, hein, cette question, et elle a été portée notamment au moment du Concile, le Concile Vatican II. Alors, vous savez que dans la conversation, je peux écrire des choses, donc vous pouvez les voir aussi. Hein. Au moment du Concile Vatican II, donc 1962-1965, hein, c'est ça les dates de la réunion conciliaire, il y a notamment un texte qui s'appelle Nostra Aetate, voilà, Donc, vous le voyez dans la conversation, hein, ce que je viens d'écrire, un texte qui s'appelle Nostra Aetate, qui aborde cette question, qui l'aborde par le biais de comment est-ce qu'on situe, quand on réfléchit en chrétien, et là, en l'occurrence, en catholique, comment est-ce qu'on situe les autres religions, hein ? Donc, oui, il y a une vraie question, et l'offre divine, l'offre de la part de Dieu, eh bien, à tous, hein, avec... Alors, selon la situation de chacun, et vous avez raison de dire tout le monde ne connaît pas la lettre, ou dans tous les cas, tout le monde n'a pas entendu l'annonce. Non, c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faudrait le dire, il me semble. Mais avec la situation de chacun, sociétale, culturelle, personnelle, enfin, à tous les niveaux, hein, il n'empêche que cette offre de la rencontre, qui n'est pas forcément avec Jésus, non, comme le, pour rester comme le pape... dans la formule du pape, de François, oui, oui, bien sûr qu'elle est offerte à tous, bien sûr. Vous avez une hésitation sur l'hypothèse de la réponse ?
Non, 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 j'imaginais bien la réponse, mais c'est d'accord. Plus qu'est-ce qui conduit, quoi.
Oui, oui. La question des autres religions est une question qu'on abordera hein, à un moment, hein, tout à fait. Quel est donc le mode de révélation, les modes peut-être au pluriel, hein, les modes de révélation quand ils ne sont pas seulement dans la tradition judéo-chrétienne. Merci, c'est une question importante et c'est une question vraiment contemporaine. Autre remarque, Christophe, je vois que vous avez levé la main, prenez le micro, vous avez la parole.
Donc, je voulais savoir, par rapport au troisième chapitre, le contexte contemporain,
oui.
La question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas penser la foi en ajoutant une quatrième dimension qui est une dimension d'expérience ? Puisque ce que je veux dire par l'expérience, c'est qu'en fonction des témoignages, parce que le témoignage... De notre foi en cet amour infini, inébranlable qui est dans l'encyclique du pape, il peut se faire, quel que soit notre rapport à la tradition, modernité et postmodernité, qui peut parler au monde contemporain.
Tout à fait. Ah oui, vraiment d'accord avec vous. Alors, la triade, la tradition, modernité, postmodernité, c'est presque une approche, on pourrait dire, sociologique, hein, si vous voulez. Vous avez entièrement raison de dire, et c'est l'histoire du jeune homme riche, c'est la rencontre de Jésus, enfin bon, ça a été tramé au fur et à mesure du propos avant, vous avez entièrement raison de dire que c'est bien la rencontre de Dieu ne se fait que par des médiations. Hein, on est toujours sous le mode de la médiation. Et donc, une des premières médiations, c'est évidemment le témoignage de l'autre. Oui, vous avez raison, vraiment. Mais ça n'empêche pas que ça se passe dans des contextes culturels et sociaux, et sociologiques, on peut dire, qui croisent un rapport à la tradition, à la modernité, à la postmodernité. Vous voyez ? Ça n'empêche pas. Ça, c'est tout à fait juste que le témoignage, c'est le moteur même de l'écriture des évangiles. Hein ? Pourquoi on écrit les évangiles ? Enfin, pourquoi il y a des auteurs qui écrivent, des communautés qui écrivent les évangiles ? C'est pour porter témoignage de ce qu'ils vivent. Et pour que ce témoignage nous arrive, bien sûr. Ah oui. Alors là, vous voyez, vous touchez ce qui va être, je pense, deuxième et troisième séance, ce qu'on pourrait appeler les j'ai dit tout à l'heure le mot de médiation, mais disons simplement les moyens de la révélation. À nouveau, j'ai pris cette expression, je me semble, dans la soirée, ça ne nous tombe pas dessus, hein, ça nous arrive par, et le par aidant se maintient. Il y a par aidant, par le Christ et dans l'esprit, et il y a par les autres, et bien sûr. Donc le mot témoignage est tout à fait par, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Micro, autrement, Emmanuel, on n'entendra pas.
Oui.
Oh non, micro. Merci. Allez-y.
Vous m'entendez ?
Oui, c'est bon.
Oui, je voulais réagir sur une des phrases que vous avez dites. Vous avez dit à un moment, il y a un acte divin qui ne va pas sans les réponses humaines.
Oui.
Mmh. Et ça m'a fait penser un peu au triptyque création, révélation, rédemption. Et là, vous avez bien élaboré sur la partie révélation. Oui. Sur la partie création, il y a Dieu qui, je pense à un moment dans la Genèse, à la fin, je ne sais plus, on dit Dieu créa le monde pour faire. Donc je crois qu'il appelle l'homme aussi à continuer la création.
Oui.
La question que je me posais, c'est dans la rédemption. Est-ce qu'elle est donnée ou est-ce qu'il y a aussi préalablement ou concomitamment un faire de l'homme?
Oui,
ou est-ce qu'elle est donnée sur la croix par la mort de Jésus?
Oui. Voilà. Oui, mais il faut être comme le centurion. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. On peut ne pas le dire. On peut ne pas le voir. Mais oui, le don, l'offre divine, pour garder la même expression que depuis le début de la soirée, dans la croix, est complet, est total. Mais cette offre, on peut ne pas la voir. On peut la refuser, mais on peut surtout ne pas la voir. Donc oui, il y a... C'est le paradoxe, enfin la beauté, on pourrait dire aussi, de cette offre divine, c'est qu'elle... Cette offre est pleine, et sans retour, et en même temps, elle ne peut être réalisée, réellement réelle, que lorsqu'il y a des humains qui disent « ok ». On peut, enfin, ne parlons pas des autres, hein, parlons de nous, on peut ne pas le dire. On peut ne pas le voir, on peut ne pas le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit justement dans cette scène connue peut-être, hein, c'est que ce soit le centurion qui le dise et qui le reconnaisse. C'est-à-dire un païen, un romain, quoi, qui est un envahisseur en plus, un occupant, un mec à tuer, quoi, enfin, un occupant. Hein. Donc ça répond quand même aussi à tous, hein, entre parenthèses.
Est-ce que c'est le lien avec le libre arbitre?
Bien sûr, oui, vous avez raison. Ça veut dire que la liberté, hein, de l'être humain, alors que Dieu pourrait imposer son offre, avec puissance, tremblement et trompette et tout ce que vous voulez, enfin toute l'imagination qu'on peut avoir, hein, bien sûr, on est devant une situation tellement paradoxale où c'est le maximum de liberté humaine qui est mise en jeu. Et donc, la possibilité de l'erreur, la possibilité de refuser, la possibilité de se tromper. Donc, c'est le libre-arbitre, mais vous voyez, c'est un libre-arbitre qui n'est pas simplement la décision du oui ou du non. C'est vraiment l'être humain comme être libre. Et l'être, je ne sais plus lequel d'entre vous parlait de la création à l'instant, mais justement comme créé libre. Mais vous avez raison, c'est la liberté qui est en jeu. Donc, vous voyez, cette Dieu qui vient à la rencontre, j'insiste beaucoup, c'est peut-être ça la conclusion de ce soir, j'ai beaucoup insisté sur Dieu comme acteur, qui est le premier, Dieu premier, hein, c'est une expression traditionnelle, ça, Dieu premier. Mais paradoxalement, ça veut dire, ça semble presque contradictoire, mais évidemment, ça ne l'est pas. Paradoxalement, ce Dieu premier cherche la liberté de l'homme, la réponse libre de l'homme. Et elle peut ne pas être là, bien sûr, puisqu'elle est libre. Il faut s'arrêter, non? Parce que c'est l'heure.
Oui, c'est l'heure.
C'est l'heure, je vois que c'est 22h.
Oui, il faut s'arrêter.
Il faut s'arrêter, Aude.
Oui, il faut s'arrêter.
Bon, donc j'arrête notamment l'enregistrement. Qu'est-ce que je fais?
On va s'arrêter tout seul quand vous allez mettre fin à la réunion.
D'accord, ok, bon, très bien. Donc, je ne vais pas m'en occuper. Merci. Écoutez, bonne semaine. D'abord, on va commencer comme ça. Prenez le temps de digérer tout ça, peut-être un peu, d'y réfléchir. N'hésitez pas à faire un retour de commentaire. Hein. Je présume qu'il doit y avoir forum ou quelque chose comme ça, Aude, non ?
Non, il n'y a pas de forum.
Il n'y a pas. Bon. Alors, bon, donc c'est pas une bonne suggestion, pardon.
Non, mais soit vous gardez vos questions pour la prochaine fois. Soit à l'occasion, vous réfléchirez, Brigitte. Si tu peux donner ton mail ou pas, ou je ne sais pas.
Oui, voilà, très bien, très bien. On peut imaginer quelque chose. Voilà, pour le moment, donc pour cette semaine et lundi prochain, ma proposition, c'est prenez le temps de relire, de réfléchir un peu, enfin, faites ce que vous voulez, mais je veux dire, s'il y a des questions, on peut aussi prendre 5-10 minutes en début de séance pour dire, bon, la relecture fait apparaître quelles interrogations, quelles questions ou quels commentaires complémentaires. Oui, tout à fait, on peut faire ça. Donc, pensez-y. Vous recevrez probablement vendredi, jeudi ou vendredi, l'invitation à la séance de lundi prochain. Et ce que j'ai appelé aujourd'hui l'exemplier, vous voyez que je m'appuie vraiment sur le texte. Donc, si vous pouvez l'éditer, ça peut aider à prendre des notes, à souligner des trucs, à commenter, voilà. Donc, n'hésitez pas si vous pouvez l'éditer dès que vous le recevez. Sinon, on le voit sur l'écran. Donc, on a le soutien pour avancer, mais ça permet peut-être de garder trace un peu plus facilement en ayant édité le document.
Merci, Brigitte.
Merci beaucoup. Merci de votre écoute, de votre attention. Merci des questions. Bonne nuit.
Merci beaucoup.
C'est ça la conclusion.
Merci.
Merci. Merci. Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée.
Bonne nuit.
Bonne nuit. Oui. Bonne nuit.
Merci beaucoup. Aïe.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir. Merci beaucoup.
Bonsoir Metz, bonsoir la ville de Metz.
Merci beaucoup. Bonsoir Metz.
Alors, il faut que vous quittiez la réunion. Vous mettez fin, vous mettez simplement fin, d'accord ? Voilà. Administrateur. Ok.